Dans cette quête de qui suis-je, ce qui fait souffrir, c'est la manière surfaite avec laquelle je prends les choses personnellement. Et si nous observons quand nous prenons les choses personnellement, c'est quand il y a une émotion perturbatrice. Et il y a beaucoup de manières de s'en libérer. Une des manières, c'est de comprendre la loi de cause à effet, la roue du samsara. Et j'aimerais vous parler ce soir de ce qu'on appelle l'origine interdépendante ou la coproduction conditionnée, pour que nous comprenions mieux comment sortir du cercle, comment ne pas identifier à l'expérience dans l'instant, particulièrement lorsque nous sommes sous l'emprise d'une émotion perturbatrice. Lorsque nous demandons « Qui suis-je ?», on peut presque demander « Quand ?» Est-ce que c'est moi quand tout va bien, quand tout va mal, quand je suis jeune, quand je suis vieux ? Le moi, c'est une création utile, mais qui ne correspond pas au réel. Ce que nous avons en commun, c'est cette alternance d'ombre et de lumière. Et nous sommes uniques dans nos personnalités. Et ce cercle de l'origine interdépendante qui a 12 aspects, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir le retenir, à moins que vous l'ayez déjà travaillé. Mais de l'entendre, ça permet de mieux orienter notre regard sur ce que nous sommes, ce qu'est le monde. Et ça définit aussi ces deux notions d'inné et d'acquis. Nous naissons avec un bagage et nous acquérons un bagage durant notre vie. Sans arrêt, nous sommes en train d'acquérir. Cette roue peut être vue au niveau de notre incarnation. Pourquoi est-ce que je nais à cet endroit-là? Et puis comment ça se passe, cette naissance? Ou au niveau du maintenant, parce qu'en fait, nous naissons et nous mourons sans cesse. L'instant est toujours nouveau, jamais nous vivons le même instant, il est toujours unique. Et il y a toujours cette émergence, ce temps de vie et cette fin. Maintenant, on est au milieu de la retraite, on sera bientôt à la fin. On était au début. On est au début de l'enseignement, il va y avoir l'enseignement, ce sera la fin. Et on peut dire que quand c'est fini, c'est mort. C'est vraiment fini. Fini. Je ne vais plus jamais vous dire ce que je viens de vous dire. C'est fabuleux, hein, de conscientiser ça. Alors, je vous propose d'abord d'explorer cette roue au niveau de l'incarnation. Pour le Bouddha, avant la naissance, ou disons pour que le processus de la naissance commence à se matérialiser, il faut qu'il y ait l'ignorance. Ce que ça veut dire, c'est que, comme je le perçois, et pour moi ça fait sens, c'est que de l'unité primordiale, il va y avoir séparation. De cette unité primordiale où il y a non-séparation, où je me sens reçue, aimée, entourée, pas seule, il n'y a rien qui manque, c'est tout parfait. Mais c'est un, il n'y a pas de moi, hein, il n'y a pas de moi, c'est une unité. Eh bien, quelque chose se sépare. Quelque chose veut aller tout seul quelque part. Alors, on peut imaginer la séparation de la cellule, c'est très intéressant, la cellule qui se sépare d'abord en deux, après en quatre, après en huit, et puis ça prolifère. Mais au niveau de la conscience, cette conscience universelle commence à s'individualiser. Et ce qui se passe, c'est que ce qui se concentre, ce sont, comme dit Kalu Rinpoche, « your bad habits ». Ce qui s'incarne, ce sont des besoins de purification, des ombres qui doivent encore être purifiées. C'est pour ça qu'on dit que l'incarnation humaine est la meilleure des incarnations. C'est mieux que les dieux, que tout ce qu'on peut imaginer de dingue bonnard au niveau bon karma, parce que c'est le seul endroit où nous pouvons nous libérer. Donc ces kilesas forment ce qu'on appelle des sankharas, des formations karmiques, ou des tendances, ou des schémas. Et ce sont des tendances extrêmement profondes que nous retrouvons adultes, que nous retrouvons déjà chez l'enfant. C'est ces traits de personnalité où nous sommes plutôt altruistes ou plutôt solitaires, plutôt qu'altruistes, plutôt extérieurs ou plutôt intérieurs, plutôt dans la défensive ou plutôt dans le désir. Ce qui correspondrait, c'est ce qu'on appelle les énéagrammes, où les personnes sont, je l'ai écrit, alors je vais le lire comme ça ce sera plus clair. Soit elles cherchent l'harmonie, soit elles sont plutôt, elles aiment être différentes, les artistes, ou bien c'est plutôt une des tendances à faire son devoir, ou à être optimiste, ou à aider les autres, ou à être fort, ou à être sage, équanime. Ce sont des tendances profondes que nous ne pouvons pas vraiment changer, qui font partie de notre personnalité. Et c'est beau, parce qu'ensemble, nous formons la fleur, et nous n'avons pas besoin d'être toute la fleur, nous sommes un des pétales. Et il y a ces tendances, mais il y a aussi les tendances à l'agrippement, les tendances à l'égoïsme, à tous les kilesas, ce qu'on appelle les kilesas, la peur, la colère, la frustration, l'avidité. Les trois A, aversion, aveuglement et attachement. Ces tendances, elles vont chercher une conscience. Elles vont chercher à devenir quelqu'un. Et la première chose qu'elle cherche, c'est une conscience. Et la conscience, elle a besoin de s'incarner. Donc on pourrait dire que ça se concentre toujours plus. Les tendances, elles sont encore très ouvertes, elles ne savent pas trop bien où aller, mais elles se sont déjà mises ensemble. Et puis, elles se concentrent, elles viennent, on pourrait dire, vers la Terre, vers un endroit de la Terre, pour créer une conscience. Donc, elle doit chercher des parents. Elle doit chercher quelque part où elle peut s'incarner. Et elle cherche des parents. Et ça devient un tout petit être, hein, minuscule dans le ventre d'une maman. Un amarupa, un corps-esprit en potentiel. Il va se développer, et ce qui va se développer, c'est les six sphères des sens. Tous les sens ordinaires, les sens visibles, de la vue, de l'odorat, du goût, des sensations, de l'ouïe. Et cet esprit où il y a le psychomental, l'intellect, la conscience, tout ça se développe. Et c'est déjà un début de mélange entre l'inné et l'acquis. Il y a déjà du bon karma ou du moins bon karma qui fait que le petit être se développe de cette manière ou de celle-là. Et lorsque ces sens sont suffisamment... Et ces sens se développent avec le contact. Le bébé dans le ventre a déjà énormément de contacts qui lui permettent de ressentir. Et on voit très bien que le bébé, déjà dans le ventre, réagit. Ce qu'on appelle tanha, la soif se manifeste déjà. L'agrippement. Se développe et le sens du devenir. Le bébé grandit, il se sent à l'étroit dans cette matrice et puis à un moment donné, la puissance de la naissance se manifeste. Le bébé veut devenir, il veut naître et il naît. Et nous pouvons imaginer cette puissance de la volonté d'existence que nous expérimentons ici et maintenant quand cette volonté se manifeste. La volonté d'existence du fœtus qui naît au monde. Et cette volonté d'existence, elle est stimulée par la soif, tanha, par le je veux, le moi qui commence à vraiment vouloir, et par le sens du temps et du devenir qui permet à l'enfant de naître. Et bien sûr, quand il y a naissance, il y a mort. Donc ces 12 aspects, je les répète, hein, c'est l'ignorance qui crée les formations karmiques ou les tendances, ça permet une conscience. La conscience crée un moi, un corps et un esprit. Les sens se développent ou se manifestent. Et alors un contact est possible. Ça veut dire qu'il y a rencontre entre l'extérieur et l'intérieur. Un ressenti. Et grâce à ce contact et ce ressenti agréable ou désagréable, la soif se manifeste. La soif, ça n'est pas encore un je veux, c'est vraiment un premier élan. Et on peut sentir en nous, hein, je veux, je veux pas encore, mais ah, ou bien ah, ah, ah. Et je veux. Là, c'est plus j'aime, je veux. Et ce je veux, upadana, devient devenir. Ça se lie à un objet. C'est ça que je veux. Et ça donne naissance à la parole, à l'acte. Mais je vais reprendre ça au niveau du maintenant. Disons que je suis là. Voilà, j'ai fait mon boulot, j'étais bébé, maintenant je suis devenue adulte. Et puis j'explore ce cercle du samsara. Mes conditions. Et imaginons qu'il n'y a pas la pleine conscience. Parce que le but de tout ça, c'est de s'en libérer. C'est pas d'y croire. Hein. Je vous demande pas de croire à quoi que ce soit. Mais à prendre peut-être ces concepts comme objet de libération. Alors imaginons que voilà, il y a une situation où il n'y a pas de conscience. J'ai peut-être jamais entendu parler de sati. Donc, l'ignorance est là. Les tendances sont là. Elles n'ont aucune protection. Les schémas sont là. La conscience ordinaire est là. Mais je ne sais pas qu'elle est là. Je questionne jamais le qui suis-je. Et puis, il y a un corps et un esprit. Des sens qui sont là, tout à fait ordinaires, normaux. Et puis, il y a un contact. Parce qu'il y a ces sens qui sont prêts à fonctionner, il y a un contact. Et disons que le contact, c'est quelqu'un qui agresse, ou qui blâme, ou qui juge, ou qui est ressenti comme menaçant. Le ressenti n'est pas conscientisé, mais il est ressenti et il crée des représentations, des images, et le système défensif se met en place. La soif de ne pas avoir, la soif de rejeter cette chose qui menace, qui va me faire mourir, s'active. Et même si ça me fait souffrir, je vais m'attacher à ce rejet en croyant que ça va améliorer les choses. Je fiche loin ce truc qui arrive là, avec peut-être violence. C'est pas encore là la violence. Parce que là, il y a l'agrippement, je ne veux pas, et il y a le devenir. La pensée se met en marche pour imaginer comment faire pour plus avoir cette chose horrible qui est là, qui s'est passée. Et ce devenir donne manifeste la parole et l'acte qui crée un très mauvais karma. Soit ce sera un très mauvais karma envers moi-même, parce que je le prends sur moi, je culpabilise, c'est ma faute, j'aurais pas dû, pourquoi? C'est pour ça qu'il m'a agressé, parce que je suis nulle. Ou le contraire, c'est lui, et je vais aller dans la violence. C'était exactement ce que je vivais l'autre jour, quand j'étais très à l'étroit, puis que j'hésitais entre le suicide et la bombe H. Jati, la naissance qui. Nous donnons naissance à la parole et à l'acte. D'abord à la pensée, bien sûr. Le devenir est encore dans la pensée future de ce que je vais faire ou ne pas faire. Et c'est comme ça que nous créons le karma. Je crée mon karma. C'est moi qui suis créatrice, totalement. Il y a un contact qui a pressé le bouton. Mais il y aura toujours un contact pour presser un bouton et engendrer la loi de cause à effet. Maintenant, imaginons qu'il y a sati. J'ai travaillé l'esprit, je sais comment être là. C'est réellement un bouclier pour ce processus qui mène à la souffrance. Sati est là. Il y a bien sûr l'ignorance, mais je sais qu'elle est là. Il y a les schémas, les tendances, je les connais pas mal, c'est bon. La conscience, je sais qu'elle peut s'éveiller, la conscience s'éveille. Il y a un moi qui est mis à sa place, voilà, un corps, un esprit. Il y a des sens, ils sont là, tous ces sens. Ça pense, là, ça élabore la loi de cause à effet. Et puis, voilà qu'il y a un contact. Quelqu'un dans la salle se lève et puis me dit bouh. Alors je reste bien tranquille, contact, ressenti, c'est désagréable. Ouh, c'est vraiment désagréable. Ça, on ne peut pas le changer. Ça va jamais être agréable que quelqu'un nous agresse ou nous juge ou nous dévalorise. La douleur physique va jamais être agréable. Le contact est comme il est, je ne peux pas l'éviter. Ça non plus, je ne peux pas éviter. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est comme ça. Et ça crée ce ressenti. Et là, comme j'ai la pleine conscience, je m'arrête et je vois. Ah ouais, il y a eu ce contact, il y a ce ressenti. Ok. Et je peux couper la soif. Là, j'ai un choix. Je peux aller dans l'instinct qui va me dire, fais attention, réagis, c'est pas juste, il faudrait, patati, patata. Ou bien je peux aller puiser dans ma sagesse et sentir l'envie de réagir, elle est là, l'envie de s'agripper, hein, je veux, j'aimerais mieux autre chose, je vois le devenir, je pourrais faire ci, mais je pourrais aussi faire ça. Je vois les deux devenir, celui qui est sage et celui qui est instinctif. Et alors, la parole et l'acte sont différents. J'évite de créer du karma. En retraite, c'est très bien parce que souvent, le mécanisme se met en place, met en route, mais pour une raison franchement nulle. Mais franchement anodine de chez anodine. Puis tout d'un coup, je me vois en train de juger quelqu'un parce qu'il a pris un peu trop de carottes, ou bien parce que il marche pas comme il faut, ou bien des histoires. Donc c'est plus facile d'aller voir parce que ça n'est pas du quotidien où nous sommes vraiment concernés, qui font partie de notre vie. Et de pouvoir revenir, attends, quel était le contact? Qu'est-ce que mes sens m'ont montré? Ah ouais, ok. Essayez de prendre un exemple pour vous. Et puis, quel a été le ressenti? Déjà, si vous dites agréable, désagréable, vous êtes à moitié sauvé. Mais souvent, nous ne disons pas, hein, nous le sentons, et puis ça saute directement dans la soif et dans le mental qui élabore un futur possible où je me juge ou je juge l'autre. Alors, de prendre le temps de voir, ah, contact. Maintenant, pendant que je vous parle, ça se passe. Suivant ce que je dis, c'est un contact qui fait « Oh, intéressant ». Puis suivant ce que je dis, « Oh, j'y comprends rien ». C'est comme ça, ça fait ça. Contact ressenti. Et puis après, cette envie de faire quelque chose. Le but n'est absolument pas d'arrêter la roue ou de supprimer la roue ou de nous sommes dans la roue. Et sortir de la roue, ça n'est pas ne plus y être, mais c'est la voir, c'est la comprendre. Nous sommes dans la roue du samsara et avec la présence, nous pouvons mettre un pied à l'extérieur. Nous ne sommes pas que ça. Qui suis-je? Ben ouais, ma foi, je suis ça. Je suis celle-là. Vous êtes ceux-là. Et il y a un respect à avoir pour ce qui suis-je. Parce que il y a ce Bouddha intérieur chez chacun de nous. Il y a ce potentiel de claire vision à respecter et surtout à connecter. Et chaque fois que nous sommes présents, c'est une petite goutte de cette connexion qui vient dans notre baquet et le baquet se remplit. Nous sommes de plus en plus libres de cette croyance à ce que nos sens, à ce que le monde des perceptions nous raconte. Donc la fin de la souffrance, ça n'est pas la fin de la peine. La peine, elle fait partie du monde. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus en moi, des fois plus chez l'autre. Ça bouge, ça change. Ça n'est pas ce que nous sommes. Et le bonheur, ça n'est pas ce que nous croyons. Il y a deux formes de bonheur, hein, qu'on appelle lokiya, qui est ce bonheur conditionné, un bonheur qui dépend des circonstances extérieures, des états intérieurs. Et il y a un bonheur qui est non conditionné, l'okutara. C'est cette présence qui amène la paix, qui amène la fraternité, la reconnaissance. Que l'autre est au fond comme moi, même s'il a beaucoup d'aveuglement, il a quand même des fois des moments où il sait être généreux, où il sait être patient, être doux. Et alors nous comprenons mieux que le qui suis-je est plus lié à quand qu'à quelqu'un. Que le qui suis-je, il peut prendre sa place comme il est là. Qu'il n'y a au fond aucune faute nulle part, aucune erreur. Que chacun est déjà totalement à sa place. Avec ce qui est là, tout ce qui est là. Il suffit de le savoir, de le comprendre vraiment. Et ça ne nous empêche pas de nous engager, mais nous nous engageons autrement. Je vous lis une parole d'Ajahn Chah qui dit: Lorsque nous pouvons connaître les phénomènes, les choses telles qu'elles sont et que nous ne sommes pas trop concernés par eux, l'esprit devient paisible parce que nous n'essayons plus de posséder l'expérience. Nous pouvons toujours jouir de nos vies, employer ce que le monde propose, nos affaires matérielles, nos maisons, nos meubles, nos habits. Ce n'est pas vraiment à nous. Nous les employons, mais c'est dans le but de réaliser que ce n'est pas à nous. Nous pouvons les employer librement, sans avoir à souffrir à cause d'elles. Nous les employons avec une connaissance qui est sage et qui transcende l'ordinaire. Nous pouvons être au-dessus de toutes ces choses. Nous pouvons être au-dessus de toutes ces choses. Nous sommes au-dessous d'elles. Nous les portons avec l'attachement que c'est à moi, courbé sous leur poids. Et ce n'est pas seulement les habits, les meubles, mais c'est aussi les relations, les états intérieurs. En vivant dans le monde, il y a beaucoup de choses que nous devons faire, mais nous les faisons en lâchant prise. Et l'esprit est en paix, sans détresse. Comprendre que ce cercle du samsara, c'est les choses telles qu'elles sont, et que nous pouvons le voir plutôt que d'y croire. Cette loi de cause à effet. C'est le Dalai Lama qui dit: il est plus important de comprendre le karma et comment il fonctionne que toute la philosophie du Madhyamika sur la vacuité. Et d'abord, nous l'entendons, on se demande, hein, c'est quoi? Et c'est bien, hein, le Bouddha il dit, mais vérifiez, n'y croyez pas du tout. Et puis après, ça s'approfondit. Et nous commençons à réaliser à l'intérieur. Et une fois, ben, c'est réalisé. Mais comme je le disais, comme je le dis souvent, quand je dis c'est réalisé, c'est maintenant. Mais après, je ne sais pas. On verra. Les choses changent. Et la pleine conscience, ça n'est pas quelque chose de définitif. C'est une compétence à relier encore et encore. Je ne peux pas m'approprier la pleine conscience. Je ne peux que la relier dans l'instant. Parce que c'est pas à moi. C'est cette grâce qui nous est donnée. Nous pouvons être là maintenant, avec le chant de l'oiseau, qui évidemment se tait quand je parle de lui. Je vous lis une parole que j'aime beaucoup. Qui a été écrite par les maires de la place de Mayo. Ça commence à dater, hein, mais c'était beau. Il y avait en Argentine la dictature et puis Les fils qui étaient contre la dictature disparaissaient, étaient torturés, envoyés Dieu sait où. Et puis les mères se rassemblaient. Et c'est une des paroles qui a circulé sur la terre entière pour encourager les endroits qui souffrent. Si tu es là et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil de l'eau, recommence. Si la vie te semble absurde, si tu es déçu par trop de choses et de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus de toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver. Le rameau fleurit sans demander pourquoi. L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espérance et recommencement. Nous recommençons tout le temps. Quelquefois, quand je fais ma vaisselle, je me dis, mais cette vaisselle, je l'ai fait vraiment combien de fois dans ma vie? Puis voilà qu'il y en a nouveau une. On recommence. Et c'est bon. C'est bon de se relier. Pour rien. En retraite, on recommence sans arrêt. Ah ouais, de nouveau la méditation marchait. De nouveau l'assise. De nouveau une retraite. De nouveau, combien de fois je les ai fait ces retraites de Pâques? De nouveau une retraite. C'est beau. Établir la présence. Avoir si possible une continuité. Le Bouddha a parlé des postures, on peut être là dans l'assise, c'est important parce que comme il y a un long temps où nous ne faisons rien, il y a automatiquement des choses qui ont été stockées qui émergent. Et alors le processus de purification peut se faire. D'abord, nous apprenons à employer sati. Nous apprenons l'équanimité, nous apprenons que l'expérience douloureuse n'est pas forcément non bénéfique. Bien sûr, si nous pouvons l'éviter, nous l'évitons. Mais heureusement, en retraite, on ne peut pas tout éviter. Et puis après, il y a cette confiance qui vient. La loi de cause à effet, c'est une loi de cause à effet, mais aussi d'effet à cause. C'est vraiment, ça se marie. Et nous pouvons bien le voir, combien nous sommes interconnectés en nous-mêmes et avec les autres. Je vais finir avec Eti et le Zoom. En définitive, nous n'avons qu'un seul devoir moral. C'est de préserver de larges plages de présence et de paix à l'intérieur de nous-mêmes. Une présence et une paix de plus en plus grandes, et d'en faire profiter les autres. Et plus nous posséderons de paix en nous-mêmes, plus il y en aura dans ce monde agité. Et puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. Je vous propose de prendre un moment en silence.